Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Merci d'être venus en foule. Pour voilà. Hey, voilà. Ce soir, on a le plaisir et la joie d'accueillir un nouvel auteur et de découvrir un nouvel auteur. Pas tout à fait nouveau parce qu'il se cache sous des pseudos parfois un petit peu bizarres pour écrire des choses pas forcément très recommandables, mais qui on recommande quand même. Enfin, pas très recommandable en dessous de 18 ans. Et puis, qui vient de sortir son premier bouquin qui s'appelle Stoner Road aux éditions AQSF. Donc, on va pouvoir parler un petit peu de tout ça. Mais pour commencer, Julien, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton substrat d'imaginaire. Quels sont les auteurs, les films un petit peu qui t'ont marqué?
D'accord. Alors, je pense être un gros lecteur, mais pas autant que la plupart des gens qui sont ici, qui sont venus, qui arpentent les festivals. Je pense que je suis plus cinéphile que lecteur, et c'est avant tout le cinéma moi, qui va m'inspirer. Et c'est le cinéma auquel je vais carburer pour puiser les histoires que j'ai envie de raconter. Et particulièrement le cinéma, les séries B, on va dire, fantastiques. Voilà, ça c'est vraiment ma cam.
Il y a des réalisateurs, des types d'histoires particulières en série B ou t'es tout public?
Oui, alors bon, je suis tout public, hein, je suis tout public et je suis même bon public, donc je regarde pas mal de trucs vraiment. Que beaucoup trouveraient pathétique, et moi je trouve toujours qu'il y a quelque chose à sauver, une scène, un monstre, un morceau, une musique ou quoi que ce soit. Après, oui, j'ai bien entendu des références. Je pense notamment à ce qui fait une petite actualité en ce moment, à Don Coscarelli, l'auteur de notamment Les Quatre Fantasmes, et puis Bubba Hotep, et récemment John Dies at the End, qui est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup, puisqu'il réussit à allier une espèce d'onirisme qu'on pourrait trouver chez Lynch, par exemple, avec toujours un côté série B, film de monstres. Et voilà, les films de monstres, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup.
Les freaks.
Oui, voilà, les freaks, bon, depuis le film qu'on connaît tant, mais quelqu'un qui va aussi beaucoup m'inspirer, c'est notamment Guillermo del Toro, c'est qui on retrouve cet amour des monstres et des freaks en tout genre.
À partir de quel moment tu commences à écrire et tu te mets à toi-même raconter des histoires?
Alors, je suis venu à l'écriture d'abord par le biais du jeu de rôle, puisque j'ai écrit, alors d'abord comme toujours de jeu de rôle, les scénarios que je pouvais faire jouer auprès de mes amis. Et puis, par le biais de Willy Favre, un bon ami, j'ai eu l'occasion de commencer à travailler de manière plus professionnelle, en des textes travaillés. Donc, moi, j'intervenais pas sur le système de jeu, tout ça, mais vraiment sur l'univers, les personnages, le background, les scénarios, donc des histoires prêtes à jouer, prêtes à être mises en scène. Et puis, ça, je l'ai fait pendant 5-6 ans. Et petit à petit, j'ai été tenté d'écrire moi-même les scénarios que je mettais en scène. En fait, quand j'avais une idée de scénario qui me plaisait particulièrement, je me disais, mais ça, en fait, j'aimerais bien raconter moi-même avec ce que font les personnages, et plutôt que de le proposer à d'autres, c'était un peu une démarche presque égoïste. Et j'ai commencé à écrire donc quelques nouvelles que j'ai envoyées ici et là, qui ont été plutôt bien accueillies, et ça c'était fin 2010, début 2011.
Quelle était un petit peu l'ambiance de ces nouvelles? C'était déjà fantastique, déjà science-fiction?
Oui, c'est déjà clairement du fantastique. Assez peu de science-fiction, vraiment du fantastique, et c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte, j'ai pas abordé mon travail d'écriture en disant j'aime les monstres, je vais en mettre partout. C'est plutôt les relecteurs, des amis à moi qui ont pu lire, qui vont me dire « Ah, mais tiens, encore telle figure, encore telle figure. » Et là, je me suis rendu compte que c'était assez récurrent. Et c'est, oui, c'est 80% de fantastique, un petit peu de polar, du polar où il y a un peu de fantastique aussi, voilà.
Pour le moment, on te connaît sous trois facettes, sous trois masques. Il y a le côté Stoner Road, donc plutôt musique, il y a le côté... trash, et puis il y a le côté combat mexicain.
Oui.
Alors on va essayer de voir un petit peu les trois. Donc au Carnoplast, plutôt des histoires avec des combattants mexicains,
oui.
de catch.
Oui, exactement. Alors au Carnoplast, qui est le premier éditeur à m'avoir fait confiance sur des formats un peu plus longs que les nouvelles, puisque c'est sous la forme désuète du fascicule à l'ancienne, c'est des petits romans ou des grosses novellas, hein, on pourrait dire ça. Et j'ai commencé à écrire chez lui avec des histoires de catcheurs mexicains, un personnage que j'ai inventé qui s'appelle Green Tiburon, et qui est inspiré de tous ces catcheurs mexicains des années 60, 70, jusqu'au tout début des années 80, que sont Santo, Blue Demon, Mil Mascaras, qui sont de véritables icônes du catch au Mexique, en même temps des héros de romans photo et de films, puisque Santo, le plus célèbre d'entre eux, a tourné dans 52 longs métrages, tout le long de, des années, voilà, fin des années 60, enfin début des années 60, pardon, à la fin des années 70.
Qu'est-ce qui t'a fasciné dans le catch mexicain? C'est le décorum, c'est le fait que les catcheurs sont des icônes qui vont jusqu'au cinéma, au-delà donc, des rings.
Oui, en fait, c'est tout cette. Il y a deux, trois choses. C'est déjà l'univers, parce que effectivement, c'est un univers qui est vraiment très très riche. Bon, il n'y a pas toujours une réelle continuité. Santo va pouvoir affronter des momies, des extraterrestres, des martiens, des créatures à la Frankenstein, etc. Et puis l'épisode d'après, enfin le film d'après, il va expliquer que la solution au crime qui ravage telle ou telle ville est forcément rationnelle parce que le fantastique n'existe pas et la fin du scénario, enfin, la fin du film va lui donner raison. Donc c'est pas toujours très, très cohérent, mais c'est un univers d'une très grande richesse. Ensuite, c'était également des athlètes, puisque le catch mexicain est extrêmement spectaculaire et c'est assez impressionnant à voir, c'est très aérien avec des figures incroyables. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pris au premier degré. C'est-à-dire que c'est complètement fauché, très souvent, les effets spéciaux sont assez sommaires, les maquillages peuvent s'arrêter à la base du cou, enfin voilà, beaucoup pourraient s'en moquer et aborder ça sous l'angle de la parodie ou autre. Et moi, ce que j'aime, c'est que les réalisateurs, ils, bon, avec leurs limites pour certains, certains l'ont fait brillamment, d'autres là, c'est toujours premier degré. Et c'est ce que j'aime bien et c'est ce que j'ai essayé d'aborder moi aussi pour les Green Tiger Run, pour tous les styles que je suis amené à faire. J'essaye d'aborder toujours ça au premier degré avec le respect du genre. C'est un peu facile de s'en moquer.
Et le Carnoplast, alors pourquoi ce choix? Le Carnoplast, petit éditeur de fascicules, hein, même s'il y a beaucoup plus de textes que ça nous paraît. Qu'est-ce que le format impose dans ces fascicules? Et puis pourquoi avoir choisi le Carnoplast?
Alors, le format déjà impose donc une histoire assez courte, donc très dynamique, et puis très typée, parce que Carnoplast choisit des récits des récits de littérature populaire qui sont extrêmement typés, de manière à avoir une identité forte. Et alors pourquoi le Carnoplast? En fait, c'est j'ai été en contact avec le Carnoplast par le Bill Saint-Long et d'un ami aussi qui m'a présenté à lui, qu'il connaissait. Et j'ai lu au détour d'un post Facebook que le Carnoplast, Robert Darvel, l'éditeur, avait été charmé par un film qui s'appelle Zombie King, qui est une production américaine pour le coup extrêmement fauchée et qui rendait hommage à ce point de cinéma, pardon. Et il se disait, mais pourquoi pas des catcheurs mexicains au Carnoplast? Et à l'époque, c'était en sommeil, mais j'avais commencé à faire un blog avec les aventures de Green Tiger Run, où je le racontais à la première personne sous forme d'une sorte de journal intime. Donc je lui ai envoyé le lien vers le blog, ça l'a intéressé, il m'a proposé d'en faire des fascicules. Et la boucle est bouclée, en fait, enfin la boucle est bouclée, la série n'est pas finie, mais ce que j'ai trouvé génial, c'est de pouvoir faire sortir des histoires de catcheurs mexicains sous forme de fascicules, qui était le format exact dans lequel ça sortait dans les années 60. Bon, c'était des fascicules de romans photo, c'était moins littéraire, c'était plus, voilà, posé avec des squelettes en train de se bagarrer. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était le moyen de rendre un bel hommage.
Un petit mot sur ces deux histoires, qu'est-ce qu'elles racontent? Les combats contre...
Oui, alors, Green Tiger Run, en fait, vit dans un archipel qui s'appelle Los Murciélagos, qui est situé en plein milieu du triangle des Bermudes. Et donc, ça explique en fait hein, qu'est-ce qui se passe dans le triangle des Bermudes et pourquoi il y a autant de disparitions. C'est qu'au milieu de toutes ces îles que forme l'archipel, il y a un vortex, un espèce de tourbillon qui aspire l'eau et qui peut aspirer également les bateaux, les avions, etc. Mais de ce vortex émergent de temps en temps d'hideuses créatures qui viennent de l'enfer, d'autres planètes. On ne sait pas, c'est un vortex, c'est mystérieux. Ça permet de faire intervenir toutes les créatures que Santo a pu affronter, par exemple, en fournissant une seule et même explication. Et donc dans le premier, il affronte une pieuvre gigantesque vénérée par une secte maléfique, de moines maléfiques. Et dans le deuxième, il essaye d'empêcher les martiens d'inonder la planète. Parce que les martiens sont amphibies, on sait bien, il y avait des canaux sur Mars. La planète s'est asséchée, ils sont à la recherche d'une nouvelle planète. Seulement, même si la Terre a beaucoup d'eau, il n'y en a pas assez. Donc ils veulent faire exploser une bombe atomique dans le vortex pour submerger l'ensemble des terres émergées. Et donc, Green Tiger Run va essayer d'empêcher ça, et il est aidé par une loup-garou. Alors, on parle souvent des loup-garous nazis, hein, voilà. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant d'en faire une loup-garou du KGB, ça change un peu.
On va passer à l'initiative que tu as montée. C'est un hommage à la collection Gore, du Fleuve Noir.
c'est donc une collection qui s'appelle Trash. C'est ça. Et qui donc réhabilite un petit peu le gore. Raconte-nous un petit peu le début de l'aventure et ouais. Après, qu'est-ce que tu y as fait?
D'accord. Alors, gore, donc déjà pour replacer un petit peu, 1985-1990, deux bouquins par mois, 118 titres. Des bouquins vraiment abjects, dégueulasses, sans tabou, du sexe, du sang, les deux mélangés, qu'on pouvait trouver partout dans les supermarchés, dans les gares, enfin voilà, c'était assez un phénomène, je pense, qui est lié à l'esprit des années 80 et à l'esprit de toutes ces pellicules gore aussi qu'on trouvait dans les vidéoclubs, en fait, c'était la déclinaison. Hein. D'ailleurs, c'est une collection qui est assez liée au cinéma. On est parti du principe avec un ami, Article, que ça n'existait plus en tant que collection. Évidemment, depuis 1990, des récits gore étaient sortis, ça c'est une évidence, mais il n'y avait pas à notre connaissance une véritable collection de romans. Donc bah, on s'est lancé, on a été aidé par Robert Darvet pour le coup du Carnoplast, qui nous a permis de nous lancer, qui nous a expliqué, qui nous a fait des mises en page, etc. On a sollicité des auteurs parmi nos contacts, et puis en juin 2013, on a sorti nos trois premiers titres. Et maintenant, on sort 6 titres par an, par deux salles de trois, en fait. 3 au premier semestre, 3 au second semestre.
Avec des titres doux et légers, comme Nécroporno, par exemple.
Oui, Nécroporno, Murder Prod, Pestilence, Silence Rouge, Hémorragie.
C'est un programme. Tout pour bien dormir. Voilà. Le tien, c'est Pestilence.
Alors, j'en ai écrit deux. Alors, j'ai écrit Pestilence, qui est numéro 2, sous le pseudo de Deguelus. Je trouvais que ça rendait bien. C'est l'histoire d'une enquête d'un médecin de la pestilence avec les grands becs au Moyen-Âge pendant l'épidémie de peste noire, en fait. Il essaie de voir d'où vient cette peste, une peste un peu particulière. Et j'ai écrit également Garbage Rampage, qui est un hommage pour le coup au VHS des années 80 dont je parle, dont je parlais un petit peu plus tôt, où cette fois-ci c'est un duo de flics qui enquête sur une vague de disparition dans le New York des années 80, et pour lesquels ils se rendent très vite compte que c'est des créatures mutantes qui sont d'origine qui vivent dans les églises.
Beaucoup de fun hein, pour cette collection gore.
Ah, oui.
Beaucoup de belles réactions. Tu t'attendais à cette espèce d'enthousiasme un petit peu autour hein.
Oui, alors non, je m'y attendais pas, ça a été une vraie surprise. Tout de suite, on a eu beaucoup d'échos positifs. On a eu aussi de très bons accueils sur les festivals, malgré nos couvertures, malgré le thème, malgré qu'on ne vende qu'aux personnes majeures, parce qu'il y a vraiment du sexe explicite, hein, en full frontal, on pourrait dire. Donc non, on a toujours été bien accueillis, il y a eu des bonnes réactions, et les gens ont trouvé ça, et c'est là où ça nous fait plaisir, bien écrit. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi j'attendais des récits gore un peu vite écrits, bâclés, etc. Et ils ont trouvé ça au contraire bien écrit, donc ça fait toujours plaisir, ce genre d'accueil.
Et alors, il y a peut-être une petite récompense, il y a Christian Villard qui a été un des membres de la collection Gore,
oui.
Du Club Noir, que vous avez publié.
Oui, alors on a deux anciens pour l'instant de la collection Gore. On a Christian Villard qui est revenu signer donc, sous le pseudo de Chris Villa, qu'il n'avait pas utilisé depuis son futur. Donc Murder Prod, qu'il a signé chez nous, qui est un de nos plus trash, pour le coup, plus sombre. Et on a également Brice Tarvel, qui nous a fait confiance à deux reprises pour nous confier la réédition de Silence Rouge, qui était initialement un livre qui devait sortir chez Gore et qui était sorti chez un autre éditeur, et qui là, le mois prochain, sort un inédit chez nous qui s'appelle Charles Tango. Et on espère que c'est que le début de cette passerelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être uniquement dans la nostalgie d'aller chercher que des anciens de la collection. Il y a des nouveaux, mais on est content aussi qu'il y ait ce lien.
On va parler musique aussi, encore un sujet doux et délicat avec de la drogue. Alors peut-être déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le stoner?
Oui, bien sûr. Alors le stoner, c'est un mouvement musical qui émerge à la fin des années 80, au début des années 90, principalement aux États-Unis et principalement dans le sud de la Californie, dans tout le désert autour de Joshua Tree, etc. Alors comment ça se passe? Il y a pas mal de petits groupes à l'époque, donc du circuit vraiment indépendant, qui ont envie de prendre le contre-pied de tout ce qui est heavy metal à l'époque, avec les rythmes ultra rapides, le jeu sur aigu, etc. Ils ont envie de casser ça et de faire une sorte de retour aux sources du blues rock des années 70, des power trio notamment, comme Grand Funk Railroad, ou même à la Led Zeppelin, etc. Et donc ils vont former leur groupe, et ils vont partir jouer dans le désert en emmenant des groupes électrogènes. Pour faire ce qui sera finalement des rêves parties version rock avant l'heure. Ils s'installaient dans le désert, circulaient les LSD, les champignons, etc. Et c'était des folies parties.
Tu peux nous raconter peut-être un petit peu l'histoire et puis ton personnage de punk junkie.
Oui. Alors, en fait, donc, Stoner Road se passe vraiment pas tout à fait au début de ces scènes alternatives et indépendantes, mais un petit peu après, on est au milieu des années 90, et on suit les aventures d'un jeune homme, toxicomane, qui a beaucoup fréquenté ce milieu-là, et puis qui est maintenant tellement shooté en permanence qu'il devient un peu feignant, qu'il vit replié sur lui-même. Et comme il n'a vraiment aucune ambition, et que c'est un loser complet, sa copine finit par quitter, elle dit j'en ai marre de cette vie-là, je lui casse. Et lui, il entreprend de la reconquérir, quoi. Il veut la rattraper, recoller les morceaux, sauf qu'elle est partie justement, elle faire la fête, changer les idées dans une générateur partie. Donc il y va, il arrive un peu tard évidemment, pour découvrir qu'il y a eu beaucoup de disparitions, ce n'est pas la seule qu'il ne retrouve pas. Il y a pas mal de gens qui manquent, des gens qui sont à la recherche de leurs proches, qui étaient là à cette fête. Et quand il interroge les gens qui étaient témoins, qui étaient là, beaucoup ont des souvenirs très très flous en disant il y avait une drogue qui a circulé, c'était génial, on a trippé comme jamais, mais on ne se rappelle plus grand chose. Et en faisant cette enquête, il finit par rencontrer un autre personnage qui s'appelle Luke, qui lui est à la recherche de sa sœur, mais alors qu'il n'est pas du tout du même monde. Hein. Lui, c'est le redneck, pur jus, fan de Chuck Norris, texan, bien réac. Il est là juste parce qu'il cherche sa sœur, en fait. Mais il ne partage pas du tout ce goût pour le rock, la musique des viandes, mais encore moins la drogue. Et ils vont devoir, tous les deux, s'allier, finalement, pour partir à la recherche de leurs disparus respectives. Et s'ensuit, j'espère, un roadbook dynamique et assez halluciné, puisque Josh, qui est donc un junkie, continue à prendre de la drogue. Et ses tripes, ses délires sont petit à petit envahis par une espèce de présence qui en prend le contrôle. Chose qui est complètement inédite. Parce que jusqu'à présent, il était assez malin dans sa consommation de drogue. Il maîtrisait quand même un peu ses délires. Il savait quoi prendre pour redescendre tranquillement, etc. Et là, il perd complètement le contrôle.
C'est quoi son surnom?
Alors, c'est Doc Defos.
Est-ce qu'il y a un plaisir quand on écrit justement à mettre en scène un personnage de junkie comme ça, complètement dégradé?
Alors oui, parce qu'il y a un côté anti-héros, donc déjà c'est assez intéressant. L'idée aussi, c'est malgré ses addictions, malgré sa difficulté à faire face à beaucoup de choses, c'est quand même de le rendre attachant. Parce que le but, c'est aussi que le lecteur s'attache à ce personnage-là, de le rendre humain, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et je trouvais que le mettre en scène dans une histoire d'amour, pour le coup, hein, parce qu'il fait tout ça pour l'amour de la jeune fille qui vient de le quitter. Je trouvais que c'était intéressant, et le fait qu'il soit junkie, ça permet de se faire plaisir, notamment sur tout ce qui est scène de trip et de prise de drogue. Quoi.
Que ce soit le stoner ou le catch mexicain, ou même peut-être le gore, ce sont pour toi des passions, ou alors ce sont des sujets que tu découvres et tu te dis tiens, il y a une idée de roman et tu vas explorer?
Alors, tout ce qui est un peu série B, gore, etc., ça fait longtemps que je suis tombé dedans, c'est quelque chose que j'aime bien, l'horreur bien sanglante et tout. Le stoner, c'est le catch mexicain, et le stoner, c'est beaucoup plus récent, effectivement. Le stoner, je l'ai découvert sur le tard, il y a quelques années, mais il n'y a vraiment pas longtemps, il y a peut-être, je sais pas, 3-4 ans. Et même si j'écoutais finalement des groupes qui ont pu inspirer, je ne connaissais pas vraiment ce courant-là. J'étais un peu plus parti sur le rock anglais des années 70, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et quand j'ai découvert ces morceaux-là, quand j'ai remonté, dès que je m'intéresse un peu à un courant musical, j'ai envie d'en connaître un peu plus, d'acheter les albums, etc. Et donc je suis tombé dedans, hein, au niveau de la musique, j'ai trouvé ça très entraînant, il y a un petit côté psychédélique, il y a un côté un peu massif aussi qui attrape l'auditeur. Et j'ai trouvé aussi que les groupes avaient aussi, dans leur pochette, dans leur clip, une imagerie série B, complètement un peu délirante là pour le coup, et je me suis dit, mais il y a vraiment moyen de concilier les deux. Eux, ils font sur les pochettes d'albums, etc. Mais je pense qu'il y a moyen de raconter une histoire qui se nourrisse de ce courant musical.
Quel lien tu fais entre justement ces... Alors pour l'instant, c'est trois parties, mais il y a des histoires. Quel lien tu fais entre le gore, le stoner, ou bien encore le cache mexicain? C'est quoi? C'est parce que c'est une espèce de culture underground, presque une contre-culture qui t'intéresse?
Ouais, je dirais que c'est... Alors, contre-culture peut-être... culture populaire en tout cas, déjà, c'est-à-dire qu'il y a cette simplicité-là que j'aime bien, par exemple au niveau du catch mexicain, comme je disais, c'est très premier degré. Les gens au Mexique vont voir parce qu'ils aiment, et puis parce que c'est spectaculaire, et puis parce que voilà. Et je pense que j'aime cette simplicité d'accès qui n'empêche pas une grande richesse dans les thématiques, dans les figures, dans le les looks que peuvent avoir les créatures, les monstres, etc. Et le gore, finalement, c'est pareil. C'est-à-dire que le gore, la première image, les gens en ont, c'est, ouais, c'est de la tripaille, pour le coup, c'est du sang, etc. Mais avec cette collection, on espère montrer que c'est pas que ça, et que ça peut prendre plein de facettes différentes. Il peut y avoir du gore à la comédie gore, il peut y avoir du gore vraiment malsain, il peut y avoir du gore fantastique, et que ça peut être aussi un éclairage, mais que ça peut être aussi de bonnes, on espère, de bonnes histoires bien prenantes.
Pour l'instant, ce sont des réussites plutôt fun, hein, on se marre. Dans la vraie vie, tu bosses sur des sujets plus sérieux, notamment avec des demandeurs d'asile. Le côté engagement, est-ce que tu as envie à un moment de le mettre en scène dans un roman, ou alors tu as plutôt envie de fun dans l'écriture?
Alors, c'est une question vraiment que je me pose, effectivement, parce que je pense être quelqu'un où je l'ai peut-être été, je suis un peu moins maintenant, mais assez engagé. C'est important pour moi, c'est la thématique, la politique, tout ça m'intéresse. J'ai été pas mal militant quand j'étais plus jeune, et je me suis demandé très très vite si j'avais envie d'aborder ça. Dans ces premiers récits, en tout cas, non. Je n'ai pas eu envie d'instrumentaliser mes histoires avec un fond politique. Après, je pense qu'il y aura des histoires qui s'y prêteront mieux que d'autres. Je viens de boucler un polar sur lequel je voulais avoir un regard un peu social, un peu réaliste. Et donc, pour le coup, c'est dans le milieu de l'action sociale et des demandeurs d'asile. Donc là, je pense qu'on lira en filigrane un petit côté un peu militant. Ouais. Mais Je réfléchis vachement en ce moment à est-ce que je dois injecter plus de politique ou pas dans mes textes, et pour l'instant, non.
Une petite question là, tu es en train en ce moment de faire un peu la tournée des festivals, de découvrir l'autre facette de la vie d'auteur. C'est quelque chose qui te plaît? Comment ça se passe?
Oui, j'aime bien, oui, j'ai eu l'occasion de faire maintenant plusieurs salons. Moi, j'aime bien, ça permet d'aller à la rencontre des lecteurs et de recueillir les avis déjà des gens qui ont pu lire et qui viennent dire s'ils ont aimé, pas aimé, etc. Donc déjà, ça, c'est sympa. Et puis ça permet de parler de ce qu'on aime, hein, que ce soit là maintenant ou dans le cadre de quelqu'un qui vient demander des renseignements ou qu'on lui raconte le début ou autre. Et puis ça permet aussi de rencontrer d'autres auteurs, et là aussi c'est intéressant de pouvoir discuter de ces textes, de réflexion, de ce qu'on aime écrire.
Une dernière question sur Stoner Road. Tu as fait tous les chapitres correspondant à une chanson. Tu as fait une véritable bande originale du livre. Comment tu l'as composée?
Alors, déjà, j'écris toujours en musique, systématiquement. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit en musique, et j'essaye que ce soit toujours des musiques qui, pour moi, me paraissent adaptées, comme une bande originale, effectivement. Comme je m'inspire beaucoup du ciné, j'écris toujours en musique, et toujours très fort, en plus, si c'est possible. Enfin, si mon environnement me le permet. Donc pour Stoner Road, c'était évident que c'était en musique, et je ne savais pas trop comment. Je me disais, si je mets au début, alors voilà, j'ai écrit avec tel et tel album, je trouvais ça pas forcément bien. Et puis après, je me suis dit, mais chaque chapitre pourrait effectivement porter, avoir pour titre le titre d'une chanson de Stoner ou de Doom, qui est un peu le versant lourd, sombre et malsain du Stoner. Et donc cette playlist, ça a été difficile parce qu'il y avait beaucoup de groupes que je voulais faire intervenir, mais je voulais que le morceau convienne un peu à ce qui se passe dans le chapitre, et éventuellement, bonus, que le titre soit aussi un peu explicite par rapport au chapitre, qu'il y ait une progression. Je voulais citer des anciens groupes, des groupes nouveaux, des groupes français, donc voilà, ça a été assez difficile, mais au final, j'en suis assez fier, et notamment j'en suis fier parce que les gens qui connaissent le Stoner, qui achètent le bouquin ou qui le feuillettent, quand il tombe sur la playlist, ça a généré des achats. Parce que les gens disent, non, il est là. Ah, si, il est là. D'ailleurs, ils prennent le bouquin parce qu'ils voient qu'il y a des références communes.
On a parlé du polar. Quel est un petit peu le coup d'après pour toi? Sur quoi tu travailles? Est-ce qu'il y a un sujet comme le Stoner, comme ça, que tu es en train de t'approprier, ou tu sens que tu as envie de raconter des choses?
Oui. Alors là, je suis en train de travailler. Alors, comment dire, c'est une sorte de polar dans lequel je vais injecter quand même du fantastique, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, sur tout ce qui est le domaine de l'aléatoire, la chance, la malchance, etc. Presque cette arithmétique du hasard. Et j'ai envie de mêler ça au milieu des gueules cassées, notamment après-guerre, qu'est-ce que toutes ces personnes mutilées par la Grande Guerre avaient formé des organisations, des clubs, des choses, et elles étaient très implantées socialement, et j'ai envie de mélanger les deux dans une espèce d'intrigue policière. Donc là, c'est mon prochain projet, qui m'est très cher en plus, puisque mon arrière-grand-père était lui-même une gueule cassée.
Génial.
on a terminé quasiment cet entretien. Est-ce que quelqu'un a une petite question ou un avis sur le stoner ou sur Fedora? Profitez-en, personne. Bon, bah écoutez, on va remercier Julien Albrecht. N'hésitez pas à vous procurer ses ouvrages, au stand actuel SF ou à la librairie, à Stoner Road. Merci Julien.
Merci à vous. Merci à vous.